jour voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Que voit-on quand on regarde un tableau ? Sa beauté intemporelle, son histoire parfois chaotique, ou bien sa valeur d'échange, les milliers voire les millions d'euros qu'on peut tirer de sa vente. C'est plutôt pour l'option numéro 3 qu'a opté le personnage principal du tableau Volé, le nouveau film de Pascal Bonitzer, commissaire-priseur pour la célèbre maison de vente Scotties, ayant tous les attributs de la fonction. Costume parfaitement coupé, voiture de sport, assurance sans faille, même si l'animal n'a pas le sang aussi froid qu'il y paraît. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Et bonjour Pascal Bonitzer.
Bonjour.
Le tableau Volé, votre nouveau film, est sorti en salle ce mercredi. Un beau jour, André Masson, Alex Lutz, reçoit un courrier l'informant qu'une toile d'Egoncil, donc le grand peintre viennois, aurait été découverte chez un jeune ouvrier à Mulhouse. Collision aussi improbable que la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Charge à André Masson de démêler le vrai du faux, sachant que ça peut être le coup de sa vie. À ses côtés, une sympathique avocate jouée par Nora Hamzaoui. Son ex-femme, la blonde Bertina, c'est Léa Drucker. Sa stagiaire, la brune Aurore, c'est Louise Chevillotte. On pourrait dire de ce film que c'est un peu comme si Charlie et ses drôles de dames croisaient la comédie sophistiquée hollywoodienne. Et c'est une histoire vraie. Alors, est-ce que vous pouvez nous la raconter, Pascal Bonitzer, et nous dire ce qui vous a accroché, en fait, dans cette histoire ?
Effectivement, je suis parti d'une histoire vraie qui a eu lieu il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement. Et ce qui m'a accroché, tout simplement, ce sont les éléments percutants qui font que le tableau, qui est un chef-d'œuvre qui avait disparu en 1939, se retrouve dans les années 2000 dans la maison d'un jeune ouvrier de la région de Mulhouse.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, c'est comment il était arrivé là. En un mot, c'était une œuvre spoliée.
Et vous, quel était votre point d'accroche, en fait, dans cette histoire?
Le point d'accroche, c'était d'une part que, effectivement, ce tableau faisait ressurgir la Shoah, faisait ressurgir la question des biens spoliés, faisait ressurgir la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, elle permettait la confrontation, comme vous dites, improbable, mais vrai, entre deux milieux qui jamais ne se rencontrent, entre donc un monde d'argent, de luxe, de pouvoir et de prestige, et celui de, disons, un milieu populaire qui n'a pas accès, qui est très, très 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 loin de tout ça.
Pascal Bonitzer, avec vous, on va donc parler enchères et surenchères, cotations, coups doubles et coups fourrés. À l'affiche de tous les cinémas du monde ce samedi, un reportage de Juliette Dubois depuis Dakar sur le festival Film Femme Afrique. Et puis le journal du cinéma dont vous nous donnez un aperçu, Sophie Torletin, ce journal qui déjà bruisse de toutes les rumeurs du festival de Cannes.
Ce qui n'est pas une rumeur et qui est avéré, c'est que ça y est, on a enfin la composition du jury qui, on le sait, sera présidée par Greta Gerwig, qui a 40 ans, hein, la réalisatrice de Barbie, est la plus jeune présidente du jury du Festival de Cannes depuis Sophia Loren. Mais maintenant, on sait qui sont les 8 compères, 4 hommes, 4 femmes qui vont donc l'accompagner, hein, et choisiront parmi 22 longs métrages le film qui succédera à Anatomie d'une chute, hein, pour la Palme d'Or. Eh bien, l'une des figures qui se détache, enfin en tout cas qui a fait les beaux jours des choux gras de la presse, c'est Omar Sy, l'acteur français, 46 ans, qui depuis plusieurs années vit et travaille beaucoup à Hollywood. Voilà, il va être membre du jury du Festival de Cannes. Il y aura aussi Eva Green, Lily Gladstone, hein, qu'on a vu, qui a beaucoup fait sensation l'an dernier dans le film de Scorsese, Killers of the Flower Moon. L'acteur italien Pierfrancesco Favino, le réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, le cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona, et puis la scénariste et photographe turque Ebru Çelen. Voilà la composition du jury du Festival de Cannes. Je me permets de vous demander, Pascal Bonisseur, vous en avez déjà fait partie, vous, d'un jury à Cannes ? Vous aimeriez ?
Non, j'ai jamais fait partie d'un jury à Cannes, j'adorerais, mais bon, on m'a pas demandé. J'ai déjà fait partie de jury de festivals, mais de festivals plus modestes, Locarno par exemple.
Sophie, dans une trentaine de minutes, on retrouve votre journal et le reportage de Juliette Dubois depuis Dakar. Mais avant, on embarque pour le monde mystérieux et ô combien exotique pour le commun des mortels, le monde de l'art.
Un commissaire-priseur, c'est comme un chirurgien esthétique. Il faut lui faire confiance.
Je suis maître German. Elle demande une expertise pour authentifier un Egon Schiele que possède un de ses clients.
99%, c'est un fou.
Le garçon est ouvrier chimiste.
Ouais, c'est presque un gosse. Ils sont morts de trouille.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Il est vrai. Vous l'estimez à combien ? 10 ?
12 ? Millions.
Maman !
On le croyait détruit, il a disparu en 1939. Voilà à quoi ils ont passé leur belle jeunesse, aux anciens propriétaires. Ils bossaient avec la police allemande.
Les voix d'Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzaoui, entre autres dans le tableau volé. Une histoire, je le disais, comme on n'en rencontre qu'une dans une vie de commissaire-priseur, puisque dans le grenier d'un jeune ouvrier est retrouvé ce tableau, ce chef-d'œuvre, possiblement d'Egon Schiele. Est-il vrai ou faux ? S'il est vrai, est-ce un chef-d'œuvre du grand maître viennois ou une œuvre secondaire ? Et surtout, comment a-t-il atterri dans cette banlieue de Mulhouse ? Il apparaît bien vite que le tableau va affoler tous les compteurs, tous les repères de ceux qui l'entourent et peut-être aussi les révéler, Pascal Bonitzer.
Oui, c'était un peu ça, qui m'intéressait. Bon, évidemment, moi, j'ai réinterprété. Je connais pas véritablement les protagonistes de l'histoire, enfin, sauf un que j'ai rencontré. Mais j'ai voulu tout réinterpréter. Et le film est une fiction. Les personnages sont largement sortis de ma tête. Bon, évidemment, le personnage, notamment de Louis Chaillotte, la stagiaire, et son papa, joué par Alain Chamfort. Donc ça, c'est une intrigue secondaire, mais qui finit par s'agréger à l'intrigue principale.
Louis Chaillotte, en fait, c'est la stagiaire, Aurore. Et oui. C'est un peu elle qui porte notre regard dans ce monde de l'art.
Oui, parce que, disons... Comme c'est un monde, ce monde des salles de vente extrêmement fermé, avec ses propres règles, est assez opaque en fait, il fallait un personnage qui serve de pont entre le public et ce monde-là. Et évidemment, le personnage idéal pour ça, c'est une stagiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est dedans tout en n'étant pas complètement dedans, qui doit apprendre les codes, qui les connaît pas. Et qui, avec son patron, Alex Lutz, qui la malmène un peu. Elle se laisse pas faire, non, même à la fin, on peut même dire qu'elle prend d'une certaine façon le dessus. C'était ça aussi un petit peu qui m'intéressait. Et puis, elle est un peu bizarre elle-même. Si son patron est spécial, elle aussi.
Justement, c'est intéressant de prendre un objet inanimé, hein, même s'il a beaucoup d'âme, mais un objet inanimé qui va en fait créer une sorte de miroitement autour de lui.
C'est ça, c'est l'objet, je ne sais pas si c'est le MacGuffin, si c'est exactement ça qui convient, parce que le tableau en lui-même a évidemment une certaine importance, le MacGuffin.
Chez Hitchcock,
c'est cet objet, cette espèce de furet que tous les personnages recherchent et qui sont très très importants pour eux, mais qui en lui-même, dit Hitchcock, n'a absolument aucune importance. Là, c'est pas tout à fait ça. Le tableau lui-même a un éclat qu'on a cherché à restituer d'ailleurs, puisqu'on a fait faire une copie par une copiste professionnelle et qui est assez fidèle, je crois. Et ce tableau est assez présent dans le film de séquence en séquence. Et il acquiert un éclat, je crois, qui peut séduire aussi le public.
Une grande partie du film se déroule dans le monde de l'art et des, enfin, ce qu'on appelle le monde de l'art. Vous montrez qu'il y a beaucoup d'argent et d'ego en jeu. C'est une partie très convaincante.
Oui, non, quand on dit le monde de l'art, évidemment, c'est le monde qui vend l'art. Parce que le monde, quand on dit le monde de l'art, on ne sait pas trop de quoi on parle, parce que les artistes, ça font partie du monde de l'art. Et bon, ils s'intéressent évidemment à vendre leurs œuvres, mais ils s'intéressent d'abord à l'affaire. Mais le monde des salles de vente, le monde de l'art au sens fiduciaire du terme, évidemment, c'est tout à fait autre chose.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que Alex Lutz a un dialogue, dit à quelqu'un « Je suis sûr que tu peux mieux faire ». Et ça, franchement, un vendeur de matelas pourrait dire la même chose, en fait.
Oui. C'est ce que l'avocate dit. Elle dit... c'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce jeune homme, donc le jeune ouvrier dont elle est l'avocate, il ne connaissait pas la valeur de cette œuvre, il l'a acquise en toute bonne foi. Et si, effectivement, c'est une œuvre spoliée, donc il doit rendre aux héritiers, rendre aux ayants droit du propriétaire légitime qui en avait été spolié, c'est la loi.
Il ne possède rien, en fait.
S'il a dans son grenier une œuvre spoliée. C'est ne rien posséder au sens où cette œuvre doit être rendue. Néanmoins, comme c'est son avocate et qu'elle est sensible à son intégrité, en fait, parce que c'est aussi un personnage extraordinaire, pureté en un sens, elle demande au commissaire-priseur d'essayer de persuader les héritiers de faire quelque chose. Et donc il dit, on va essayer, et elle dit, vous pouvez faire mieux que ça.
Comment vous vous êtes renseigné sur le monde de l'art, Pascal Bonitzer ?
J'y connaissais pas grand-chose. J'ai fait faire une enquête. Enfin, plus exactement, c'est Saïd, mon producteur, qui a commandé à mon assistante, enfin ma collaboratrice, sur ce film, Iliana Lulic, de faire une vingtaine d'interviews de personnalités de ce monde. Donc, ce qu'elle a fait, donc elle a fait une enquête, elle a rencontré des gens. Elle a fait ses 20 interviews, c'était des galeristes, des antiquaires, des commissaires-priseurs, des spécialistes d'art de maisons de vente internationales, Christie's, Sotheby's, etc. Et Arcurial, je ne sais plus, enfin bon, bref. Et de tout ça, de ces 20 interviews qui représentaient au moins 250 pages de feuillets, c'est cette histoire qui m'a attiré l'œil, qui m'a retenu à cause de toutes ses composantes, à cause de sa particularité et du caractère. J'ai trouvé à la fois captivant, parce qu'il y a une intrigue, il y a un mystère et il y a des rebondissements jusqu'à la fin. Et en même temps, émouvant, parce qu'il y avait ce personnage du jeune homme qui était, que je trouvais vraiment d'une grande beauté. Voilà.
Et au départ, donc, si je comprends bien, c'était tout un travail de recherche conduit dans l'idée de faire quoi ? Une série sur le monde de l'art ? Un documentaire ?
Oui, enfin,
fiction, c'était, le point de départ, c'était quoi
Le point de départ, c'était une commande très générale de Saïd Ben Saïd, mon producteur, de faire un film se passant dans le monde de l'art et dont le héros serait un commissaire-priseur. C'était ça, le cahier des charges, c'était celui-là.
Alors, on en reparlera justement de ce monde dans quelques minutes après Sébastien Tellier et Alain Chamfort. Alain Chamfort qui joue d'ailleurs le père de la stagiaire dans le tableau volé. Donc, Alain Chamfort, Whisky Glass.
Le sens-tu le calme avant la tempête ? Le silence trop profond pour être honnête ? Un parfum qui traîne de kérosène ? Le sens-tu le calme avant la tempête, le poids de l'air qui appuie sur nos têtes. Un pressentiment que c'est imminent.
Hey, en terrasse, autour du whisky glace, sans même mal s'effondrer. Hey,
avant la défaite. Triste cotillon de fin de la fête. Un parfum dans l'air, d'heure dernière. Cet instant parfait avant la comète. Le chant des oiseaux qui soudain s'arrête. Une certaine idée d'éternité.
Hey, en terrasse, autour du whisky gaz. Sans même la vie s'effondre. Hey, en terrasse, des amoureux s'embrassent.
Ou l'orage, il faut que ça pète. Un parfum qui traîne de kérosène.
Et en terrasse, autour de whisky glace. Sans même la laisser fondre. En terrasse, des amoureux s'embrassent.
Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invité Pascal Bonitzer pour parler du tableau volé. Alors c'est un film dans lequel il n'y a pas vraiment de personnage principal. Enfin, on pourrait dire que Grandré Masson, Alex Lutz est le personnage principal, mais autour de lui, tout tourne en permanence. On adopte successivement tous les points de vue.
Oui, j'ai voulu cette construction par séquences alternées où on peut abandonner un personnage pour le retrouver après et donner la primauté à un autre personnage pendant un certain temps où toutes les histoires se tressent ensemble. Mais bon, oui, enfin, pour moi, il y a André Masson, Alex Lutz, c'est le personnage principal en ce sens que c'est lui qui suit les péripéties de tableau jusqu'au bout, mais aussi pour moi finalement d'une certaine façon le vrai héros du film, c'est le jeune ouvrier incarné par Arkady Radev, et jeune acteur, je pense qui
incroyable,
qui est assez extraordinaire.
C'est un héros parce qu'effectivement il découvre de façon un peu par hasard, en fait, qu'il a chez lui potentiellement un chef-d'œuvre. Il pourrait se dire « j'ai gagné au loto ». D'ailleurs, juste avant, un de ses copains va acheter un billet de loterie.
Voilà. Ils achètent des billets de loterie parce qu'évidemment, ils sont sans un.
Il pourrait le garder pour
il
lui.
Il a effectivement il pourrait avoir ce pétage de plomb que peut créer brusquement d'apprendre qu'il a quelque chose qui vaut des millions.
C'est comme un tableau vénéneux. D'ailleurs, ça représente, c'est intéressant ce qu'il représente, enfin ce que représente cette toile d'Egon Schiele. Donc des tournesols fanés parce qu'Egon Schiele avait vu la toile de Van Gogh.
Alors, Egon Schiele avait vu la toile de Van Gogh, je crois, en 1906, et il avait été très, très frappé par le tableau, les tournesols, et il en avait fait plusieurs interprétations, en fait. Et ce tableau-là, celui dont il est question, c'est un tableau qu'il a peint en 1914, et on dit que c'est à la nouvelle de la Première Guerre mondiale qu'il a, ça lui a inspiré ce chant de tournesols qui sont effectivement à moitié fanés, qui sont très très chiliens.
Et c'est la véritable toile, enfin c'est le véritable. Non mais je veux dire, je sais bien que c'est une copie dans votre film, Pascal Bonitzer, mais c'est cette toile là.
C'est celle-là, qui est intitulée Herbstzone, je crois, c'est-à-dire Soleil d'automne.
Et qui est maintenant dans les mains d'un propriétaire privé.
Voilà, d'un collectionneur privé, je pense. Enfin, un tableau, ça change de main, mais. Je ne sais pas quel est son sort actuel.
Donc, M. Wahlberg rassemble sa collection d'art expressionniste pour se rendre en France. De là-bas, il espère pouvoir rejoindre les États-Unis tout vendre et également faire sortir sa famille. Mais il est arrêté à Strasbourg par les Allemands. Lui parvient à fuir, mais sans sa collection.
Ben pourquoi le tableau il atterrit ici ?
Il y a un mot qui explique tout, c'est dégénéré.
L'art dégénéré.
C'est le terme qu'utilisaient les nazis pour désigner l'art moderne. Pour eux, ça valait rien. Donc c'était des tableaux, soit ils les détruisaient, soit ils les offraient en pourboire pour quelques petits collaborateurs locaux en échange de leurs services.
Comme les Kemps.
Voilà. Donc, secret total. Puis ils vous vendent la maison et tout ce qu'il y a dedans, y compris le tableau.
Les voix de Nora Hamzaoui, Léa Drucker, Arkady Radef, Alex Lutz. Et
pour eux, c'est un tableau maudit, vu sa provenance.
Magnifique casting, ouais, Pascal Bonitzer. Et c'est vrai que le film, comme vous le disiez tout à l'heure, fonctionne beaucoup par combinatoire. C'est-à-dire qu'on avance généralement par groupe de deux. Ça peut être le personnage du commissaire priseur avec son ex-femme. L'ex-femme avec l'avocate, l'avocate avec le jeune ouvrier. Le film tourne comme ça. Du coup, est-ce que c'est très difficile à concevoir en termes de casting ? Parce qu'il faut que tout le monde fonctionne avec tout le monde.
Oui, bah évidemment, s'il faut que le casting soit, il faut que oui, dans la mesure où il y a plusieurs personnages, il y a pas mal de personnages effectivement dans ce film, y compris d'ailleurs des personnages qui sont épisodiques, mais qui sont néanmoins importants, comme le personnage joué par Peter Bank, celui du collectionneur viennois qui
va tenter un magnifique coup de poker.
Voilà. Bon, faut.
Il ne faut pas divulguer.
Voilà, garder le secret, le suspense. En tout cas, c'est évidemment... oui, c'est un challenge de casting. Bon, j'avais un directeur de casting, Stéphane Battu, qui m'a beaucoup aidé. Notamment, Arkady Radef, je ne le connaissais pas, par exemple. Et c'est sur essai que j'ai choisi. Pour ce qui est de Louise Chevillotte, je la connaissais, mais je n'étais pas sûr, a priori, que...
qu'elle ferait une bonne stagiaire.
Qu'elle ferait, en tout cas, une bonne stagiaire d'Alex Lutz. et donc, en fait, j'ai fait des essais avec plusieurs comédiennes et Alex. Et c'est Louise qui a emporté le morceau, qui était parfaite. Donc, ça dépend. Et d'autres comédiens, j'ai pensé à eux d'emblée, comme Léa Drucker ou Nora Hamzaoui, avec qui je voulais travailler. Et j'ai pensé tout de suite à elles pour les rôles respectifs.
Pascal Bonitzer, dans tout de suite maintenant, l'un de vos précédents films, l'avant-avant-dernier, on découvrait le monde de la finance à travers le regard d'une jeune fille, Agathe Bonitzer, qui est votre fille,
oui, fille
à la ville. Ici, on le découvre, hein, cette machine très huilée, feutrée, avec plein de codes à travers le personnage d'Aurore, donc Louise Chevillotte. Comment vous l'avez construit, ce personnage ? Parce que c'est un peu une mine flottante, hein, justement, dans ce...
Oui, bah,
ce
c'est-à-dire... comme je vous l'ai dit, il fallait ce truchement pour le spectateur entre nous qui ne connaissons rien, disons, à ce monde fermé des salles de vente et le monde en question. Donc une stagiaire. Mais évidemment, ce que je voulais pas, c'est que ce soit juste une fonction, qu'elle soit là pour nous informer, nous renseigner. Il fallait qu'elle ait sa vie, son autonomie et son histoire propre. Et finalement, en construisant cette histoire, un petit peu comme ça, je me suis intéressé tout particulièrement à ce personnage qui est un peu bizarre et qui est apparemment mythomane et qui n'arrête pas, en tout cas, de mentir sur tout et sur rien, jusqu'à ce que ses mensonges prennent de telles proportions que ça risque de faire exploser sa vie et... voilà, et dont le père donc est joué par Alain Chamfort. Alain Chamfort que j'avais aussi envie de faire jouer depuis que j'avais vu dans le film de Serge Beson, Don Juan.
Sans être chez Romère, c'est intéressant de filmer des personnages qui mentent tous plus ou moins ou qui bluffent tous plus ou moins.
Oui, bah c'est ça qui m'intéressait dans les films de Romère. Hein. J'ai écrit un livre sur lui. je suis un grand fan de Romère. Et les dissimulations, c'est très cinématographique, que le spectateur sache qu'un personnage dissimule que d'autres personnages ne savent pas ce qu'ils dissimulent, que comment la dissimulation va finir par exploser à la figure de celui qui dissimule, etc., ou les autres. Tout ça, c'est très stimulant d'un point de vue fictionnel.
Et Alex Lutz aussi dissimule, enfin en tout cas joue un rôle.
Oui, bah lui c'est son métier là, qu'il.
Oui, mais même vis-à-vis de ses pairs.
Son métier qui l'oblige, comme il dit, à faire le tapin. C'est oui.
Mais même lui aussi, il a. Oui, on oui. comprend qu'il y a la question des classes sociales.
Oui, alors lui, bon évidemment, il est dans des rapports de pouvoir. Il y a sa hiérarchie et il peut pas tout dire et il est. Mais ça, c'est le tout venant des rapports de pouvoir.
Mais à quel moment on se dit, je parlais tout à l'heure de tout de suite maintenant, à quel moment on se dit, j'ai envie de faire un film, est-ce qu'on se le dit seulement, j'ai envie de faire un film sur le monde de la finance ? Ou j'ai envie de faire un film sur le monde de l'art ? Même si je comprends bien que celui-ci était plutôt une commande.
Oui, à la base, c'est une commande, ça ne me serait pas venu à l'esprit. Mais enfin, même si, personnellement, j'aime beaucoup la peinture et je suis très intéressé depuis toujours par la peinture, je ne me serais pas lancé dans une histoire comme ça, se passant dans le monde des salles de vente que je ne connaissais pas, tout simplement. J'étais deux, trois fois à Drouot, des choses comme ça, mais c'est pas du tout pareil. Il y a d'ailleurs des scènes à Drouot, par ailleurs.
9 500 au téléphone.
9 500, 10 000 par madame.
10 000 pour madame.
À 10 000.
Nous avons 11 000.
11 100.
11 100, non, monsieur, je ne prends pas d'enchères par palier de 100, sinon nous sommes encore là ce soir à minuit. Je peux vous proposer 11 500, ça vous intéresse ?
11 500, voulez-vous, non ?
Non.
Non ?
Alors j'adjuge.
12 000 mètres sur le live.
12 000 sur le live. 12 000 live. Ici.
13 000 à la porte-nette.
13 pour monsieur.
13 000 contre vous.
Amélie, 14 ici au téléphone, 14 000. Nous avons 14 000. Monsieur ?
Monsieur ? Oui. Non. Drôle live non plus.
14 000 une fois. 14 000 deux fois, 14 000 trois fois. Adjugé.
Dans cet extrait, on entend hein, Louise Cheviotte, donc Aurore, la stagiaire, faire monter les enchères. Alors, ça n'est pas la vente, évidemment, du Egon Schiele, mais elle fait monter les enchères. Et en face d'elle, elle a un homme qu'on ne connaît pas, un homme mystérieux. Et c'est vrai que quand on pense à ce milieu, on pense à amour de l'art. Et là, tout de suite, voilà, on ne voit que du bluff, du poker menteur et une lutte d'ego. Même si là, on comprend qu'il y a un autre agenda derrière oui. tout ça.
Bah, l'art, c'est de l'argent. L'argent, c'est de la puissance. Et la puissance, c'est de l'ego. Effectivement, c'est à la fois souvent très empoisonné et en même temps, c'est intéressant à cause de ça.
Est-ce que vous, donc, il y a d'autres scènes aussi à Drouot où Aurore va s'acheter une très belle veste et ça
oui, parce que Drouot, c'est tout. Hein. Il faut voir aussi. On parlait de milliers d'euros ou de millions d'euros, mais Drouot, on peut acheter des cintres, des bouts de des trucs absolument sans.
Et faire de très bonnes affaires. Comme
et
Aurore,
faire de bonnes affaires aussi, oui, bien sûr.
Ça vous a intéressé, non? On sent que
le
plaisir de la découverte aussi.
Voilà,
et
non,
de
puis c'est parce que aussi, comme il y a une espèce de gradation, il y a une montée vers la vente à Scotties, qui est donc cette grande maison de vente internationale. Il fallait entrer peu à peu par des ventes aux enchères moins décisives, si on veut, qui nous font pénétrer aussi dans cet univers.
Il y a un côté un peu, enfin on le disait, mais jeu. On peut se laisser prendre.
Il y a toujours du jeu.
Et on peut se laisser même déborder.
Oui, oui.
Comme au casino.
Bah, tout à fait. D'ailleurs, il y a entre les enchérisseurs, les sous-enchérisseurs, il y a ce côté qui va remporter le truc, qui va oser mettre la mise. Parce que c'est un peu comme, oui, effectivement, comme au poker, comme au jeu. Et il faut pouvoir suivre. Il y a des enchérisseurs qui essayent de suivre, qui suivent quelquefois jusqu'à la limite de leurs possibilités, ou quelquefois qui vont au-delà. Et puis, il y a ceux qui se couchent.
Et du coup, c'est quoi un bon commissaire-priseur ?
C'est quelqu'un qui sait orchestrer avec le rythme, parce qu'il faut du rythme. Parce qu'une vente aux enchères, ça prend du temps.
Comme un menteur, en fait.
C'est autre chose. C'est aussi un petit peu comme un chef d'orchestre. D'ailleurs, il a le marteau, ça joue un peu comme une baguette. Comme ça, ce sont les enchérisseurs qui sont les instruments, si on veut.
Pascal Bonitzer, on en parlait tout à l'heure, les dialogues sont très incisifs, voire corrosifs. Mais plus les personnages parlent, moins on en sait sur eux. Sauf quand des éclats de vérité surgissent tout à coup. Hein. Par exemple, quand l'ex-femme d'André, jouée par Léa Drucker, donc la seule qui semble avoir les pieds sur terre, dit qu'elle prend des bains tout le temps, dit-elle pour ne pas partir en vrille. Ou encore... dans cette scène entre Aurore, donc Louise Chevillotte, et son père, joué par Alain Chamfort.
C'est intéressant ton travail ?
Je sais pas si je suis faite pour.
Pourquoi ?
C'est un métier où il faut jouer un rôle. Il faut faire semblant.
Mais tout le monde fait semblant. Ta mère a fait semblant de m'aimer, moi j'ai semblant d'avoir encore de l'argent. Toi d'avoir perdu tes clés et d'être contente de me voir.
Elles étaient vraiment dans la doublure. Tu veux voir le trou ?
Tu as parlé récemment ?
Maman ? On est fâchés. Elle a encore dit des trucs sur toi, ça m'a gonflé et... c'est parti en sucette. On se parle plus. D'ailleurs, je parle à personne. Sauf à Julie, quelquefois, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui.
Non, qu'est-ce qu'elle devient ?
Rien. Elle était bonne à la fac et puis... je sais pas, la vie...
T'as une belle vie, toi, je suis sûr. Au moins, tout ce qui donne l'illusion de la vie, l'argent, le succès, l'amour...
Pourquoi tu dis l'illusion ?
Parce que la vie, ma chérie, c'est pas ça. C'est pas ça, la vie.
C'est quoi, la vie, papa ?
Encaisser, lâcher du lest, revoir à la baisse. C'est ça, la vie.
Ça, c'est du Virginia Woolf, non ?
Oui, c'est dans Mrs. Dalloway.
Et ce dialogue, en fait, entre Louise Chevillotte et Alain Chamfort, c'est un peu comme une danse.
Oui, enfin, c'est comme une danse ou comme un jeu, enfin, je sais pas, ou comme un... comme une espèce de round de boxe où les adversaires se tournent autour en essayant d'esquiver ou de frapper, oui.
En s'évitant beaucoup et se disent aussi des choses très profondes.
Oui, c'est ça que j'aimais dans le personnage que joue Alain Chamfort, c'est qu'il y a en lui, on a l'impression, la douleur d'une vie qui a été un peu détruite. Et du fond de cette destruction, il a une sorte de sagesse et de douceur aussi, qui lui ressemble d'ailleurs à Alain Chamfort.
On découvrira plus tard, on en a peu parlé, mais l'autre monde que révèle le film, ça c'est un pas de côté, l'histoire d'Aurore et de son père. Mais le cœur du film, c'est le face-à-face, vous le disiez en début d'émission, Pascal Bonitzer, entre deux mondes, donc celui des super riches, et je pourrais dire aussi super raffinés, sophistiqués, etc. Et le monde ouvrier avec cette maison donc de Martin Keller, pleine de fleurs en plastique, de bricoles en toc, et puis au milieu ce tableau magnifique, totalement incongru. Il y avait un équilibre à trouver, j'imagine.
Oui, parce que
pour la collision des deux mondes.
Oui, bien sûr, oui, parce que je voulais pas du tout, je voulais pas donner une vision misérabiliste, tout le contraire, et. Il fallait trouver le ton juste, la bonne description, bon, les bons décors aussi. Hein, Sébastien Danos et son équipe ont fait un beau travail dans cette maison qui, en fait, on n'a pas tourné dans la banlieue de Mulhouse parce qu'on n'a pas eu la région Grand Est. Et donc, on a été obligé de recréer cette maison en région parisienne. Mais... je me suis aperçu avec surprise que j'avais déjà tourné dans cette maison une scène de mon premier film. J'avais complètement oublié.
Ah bon ?
Voilà.
Quelle coïncidence !
Oui.
Et c'est aussi la lumière qui fait tout.
Oui.
À Mulhouse. Enfin, dans cette maison qui est censée être à Mulhouse. Comment vous avez travaillé avec votre chef opérateur, Pierre Millon ?
Assez simplement, hein. Il fallait donner une certaine atmosphère. Alors là, c'est un travail entre la déco et la lumière, la couleur des murs, la couleur des le choix des objets et l'extérieur aussi, puisque en fait une partie aussi se passe un petit peu à l'extérieur. Il y a cette usine qui est à côté, parce que il n'y a pas seulement la lumière, il y a aussi les sons, ce qui donne aussi l'ambiance. Il se trouve qu'on a tourné Donc, dans ce décor qui était situé sur deux couloirs d'avions, de Le Bourget et Roissy, donc on avait des avions toutes les minutes qui passaient, et on essayait de tirer parti de ça.
Et vous ne tournez pas en son direct, si ?
On tourne toujours en son direct, ce qui ne veut pas dire que,
qu'on
n'est pas amené à faire des post-synchro, des choses comme ça, mais autant que possible, on tourne en son direct. Alors quelquefois, avec des difficultés à s'arracher les cheveux, quand il y a des avions qui passent au milieu d'une prise, mais bon, on s'est arrangé. J'avais un très très bon ingénieur du son, Damien Luquet, qui a tiré parti de tout ce qu'il y avait. Et les avions, on les a intégrés, on les voit.
Vous disiez tout à l'heure que Martin, donc le jeune ouvrier joué par Arkady Radev, c'est un très beau personnage. Et peut-être qu'au fond, par rapport à ce que
quand je dis que c'est un très beau personnage,
c'est peut-être le seul qui voit réellement la beauté du tableau, en fait.
Oui, d'ailleurs, j'ai appris, puisque en fait, quand je dis que c'est un beau personnage, quand l'histoire m'a été racontée, j'ai trouvé d'emblée que c'était un beau personnage avant même de d'écrire le scénario. Hein. Et j'ai appris d'ailleurs que, après coup, que le vrai, donc celui qui a servi de modèle à mon personnage, il adorait effectivement ce tableau. Et que la maison de vente, donc qu'il a vendue grâce à lui, pour le récompenser, lui a fait cadeau d'une copie du tableau qu'elle a fait faire expressément pour lui.
Alors que dans votre film, c'est beaucoup plus beau parce que le don, c'est l'autre cœur du film. C'est-à-dire que les Wahlberg, qui sont les propriétaires réels du tableau et qui vont récupérer les millions de la vente, vont non pas donner une somme d'argent, un pourboire à Martin ou une copie du tableau, mais, vous allez nous le dire, Pascal
Bolitzer. Ils étaient 9 héritiers directs et ils ont proposé donc que Martin soit le 10e.
Dans le film, il parle l'un des Wahlberg parle d'un impératif. Alors, je ne sais pas si c'est religieux, spirituel, pas un impératif, mais une.
Oui. C'est-à-dire, en fait,
c'est le mois de.
C'est le mois d'Adar, qui correspond au mois de mars, et dont j'ai vu dans un prospectus Lubavitch que c'était un mois propice à la charité. Je me suis dit, j'ai utilisé ça, puisque pour marquer que les propriétaires actuels sont juifs, c'était une façon de l'indiquer. Voilà.
Ce qui est beau dans le film, c'est qu'on va découvrir quand même que Martin, donc ce jeune ouvrier, et André, qui est le commissaire priseur, donc a priori ils sont aux antipodes, sont comme un couple en miroir. C'est-à-dire que l'un et l'autre ont un rapport très fort à leur classe, de répulsion ou d'amour pour ce qui concerne Martin.
Oui, Martin, d'une certaine façon, il colle à sa classe et il montre qu'il n'a pas l'intention de déroger d'une certaine façon et de quitter son monde pour quelque chose au fond d'illusoire qui est dont on sait que très souvent, d'ailleurs, ça aboutit à des catastrophes quand quelqu'un gagne. Le gros lot ou des choses comme ça, si s'imagine que ça va changer sa vie profondément, en général, c'est pas pour le meilleur. Et il a cette sagesse qui est de profiter, parce que c'est pas un saint, il profite donc du pourcentage qui lui est laissé sur la vente du tableau, mais ça n'ira pas au-delà.
Le grand critique Serge Danet disait que les films étaient, alors je cite de mémoire, soit sur la filiation, soit sur l'alliance. Et là, il me semble que dans ce film, étrangement, on se dirige plutôt vers l'alliance avec tout ce qu'elle peut avoir de très très beau. Par exemple, entre une avocate et un jeune ouvrier, entre une stagiaire révoltée et son patron André, le commissaire priseur, dont on découvrira plus tard qu'il ne l'est pas moins révolté, moins qu'elle. Et puis entre André et puis son ex-femme, qui est un peu sa meilleure complice. Et il y a beaucoup d'alliances improbables qui se tissent au cours du film.
C'est une bonne citation. Effectivement, les meilleures alliances sont les alliances improbables. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas forcément les moins solides.
Merci, Pascal Bolitzer.
Merci.
Le tableau volé, votre nouveau film, est sorti en salle ce mercredi. Dans quelques minutes, on écoute le journal du cinéma de Sophie Torlotin après cette nouveauté, Terreau de Manuel Lainé. C'est le moment de votre journal du cinéma, Sophie, avec tout d'abord la fête du cinéma nigérian à Paris.
La Nollywood Week 2024 a débuté jeudi soir et si vous êtes à Paris, vous avez encore ce samedi et demain dimanche pour aller voir les films au cinéma L'Arlequin. Évidemment, à l'affiche, hein, beaucoup de films nigérians, mais pas que. On peut y voir aussi des œuvres en provenance du Ghana, du Cameroun ou du Kenya. Et cette année, pour la première fois, la Nollywood Week ne sera pas exclusivement sur le grand écran. Le festival s'ouvre aux films en réalité virtuelle. C'est l'une des thématiques de 2024, hein, aux côtés de l'animation et des jeux vidéo. Donc, à votre casque, Elisabeth, pour découvrir
quatre
films en réalité virtuelle en provenance de quatre régions du continent, dont le film Daughters of Chibok, hein, qui fait écho au terrible enlèvement de 276 collégiennes nigérianes, c'était en avril 2014.
Un film que vous recommandez, Sophie.
Évidemment. Une autre thématique, la condition LGBT, avec le film Toutes les couleurs du monde, du réalisateur Babatunde Apolowo, qui propose un regard singulier dans un pays, hein, le Nigeria, où l'homosexualité est toujours interdite.
En France, les hommes de la culture prennent la plume pour une tribune de soutien au mouvement MeToo. Il était temps.
Il était temps, hein, effectivement, plusieurs mois après les révélations de Judith Godrèche et ses plaintes pour viol à l'encontre de Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Donc, une centaine de Français du monde de la culture signent une tribune publiée mardi sur le site internet du magazine Elle. Parmi les signataires, les réalisateurs Jacques Audiard, Emmanuel Mouret et Mathieu Amalric, les acteurs Reda Kateb et Swan Arlo ou encore le journaliste Edoui Plenel.
Et puis au Sénégal, rendez-vous à Saint-Louis pour tous les amoureux de documentaires.
Et oui, c'est la 15e édition de Saint-Louis Doc, un festival entièrement gratuit de films documentaires. Parmi les films de la compétition internationale, on retrouve des œuvres, hein, que l'on a mises en avant dans tous les cinémas du monde, hein, comme Le Fardeau ou Coconut Head Generation. Et puis une rétrospective consacrée à la Camerounaise Sabine Bakam que nous avons reçue il n'y a pas si longtemps pour son film Mambar Pierrette.
Et on termine ce journal du cinéma toujours au Sénégal, à Dakar, avec la 6e édition du festival Femmes Film Afrique. Au programme, projection de plus de 70 courts et longs métrages, de nouveaux pays voilà, qui entrent en piste, le Soudan du Sud, et le Malawi. Les films présentés ne sont pas exclusivement réalisés par des femmes, mais de plus en plus. Et c'est aussi, Sophie, l'un des objectifs de ce festival, encourager les femmes à se lancer. C'est un reportage de Juliette Dubois à Dakar.
C'est Goodbye Julia, un film fort du Sud-Soudanais Mohamed Kordofani qui a fait l'ouverture du festival Film Femme Afrique, histoire de l'amitié entre deux femmes que tout oppose. Le ton est donné avec les rêves de liberté des deux héroïnes. La sélection est de plus en plus riche à chaque édition. Cette fois-ci, plus de 70 films sont présentés pendant 15 jours. La présidente du festival, Martine Diaye, militante pour les droits humains depuis les années 70, l'a lancée en 2003.
Ce sont des films qui racontent des parcours de femmes qui ne sont pas forcément faits par des femmes. On essaie, mais aussi fait par des hommes, mais qui racontent toujours des parcours de femmes.
Le festival est devenu un rendez-vous biannuel depuis 2014 et Martine se bat pour le faire grandir.
On est très fiers parce qu'on a quand même beaucoup de films sur le climat, sur la paix, sur les droits des femmes. Et franchement, on a des films de qualité qui sont sortis à Cannes, à Berlin, etc. On a vraiment des films africains de très belle qualité.
Des projections gratuites sont proposées chaque jour dans des écoles, des centres culturels ou des salles historiques, comme le vieux cinéma du quartier de la Médina. C'est ici que le court-métrage « Au nom du sang » de la Sénégalaise Mamito Nakamura est diffusé. Un récit poignant sur le viol au sein d'une famille et sur les tabous qui entourent ce phénomène. À l'issue, une discussion avec le public s'engage. Pour cette membre du réseau des féministes du Sénégal, le festival est un moyen de faire passer son message.
Je tenais à avoir cette interaction-là avec le public. Ce qui est important pour moi, pour ce film-là, c'est qu'il soit vu. C'est pas forcément qu'il soit primé, mais je veux qu'il soit vu. Que le message passe, que je puisse interagir avec les femmes, avec les sœurs de partout.
C'est aussi un rendez-vous incontournable pour les femmes professionnelles du cinéma sur le continent.
C'est notre espace à nous, on s'y sent à l'aise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a ce festival, on se dit, enfin, nos œuvres seront vues et sans difficulté. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être derrière, de courir. L'essentiel, c'est de faire un travail de qualité.
Il reste encore beaucoup de défis pour les femmes qui veulent se lancer. La présidente du jury, réalisatrice de documentaires et sociologue nigérienne Aïcha Maki le sait bien.
Au Niger, là où d'où je viens, c'est un métier qui est limite, en fait, à associé à un métier de libertinage, tout simplement, parce qu'une femme, quand même, qui ose avoir de la voix, qui transcende les murs, c'est pas forcément bien vu, et donc il va falloir se battre.
Aïcha Maki forme des jeunes femmes à la vidéographie au Niger. Le festival propose aussi des workshops, par exemple, pour aider les réalisatrices à promouvoir leurs films dans les festivals. Après une première semaine d'événements à Dakar, le festival continue désormais dans la banlieue et les régions du Sénégal jusqu'au 10 mai. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Apolline Verlon.
Et la semaine prochaine, on explore l'univers de James Cameron. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.